בפרשת האזינו, השם הודיע משה רבינו, ותוציא תרדויים. Monte sur cette montagne de Abarim, c'est le nom Nebo, qui est dans le pays de Moab, qui fait face à Yericho, et voit le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël en héritage. Et meurs sur la montagne sur laquelle tu montes, et rejoins ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur le mont Hor, et a rejoint son peuple. Pourquoi? Parce que vous m'avez offensé parmi les Bnei Israël aux eaux de la querelle de Kadesh dans le désert de Sin, parce que vous ne m'avez pas sanctifié parmi les enfants d'Israël. Donc c'est à distance que tu verras le pays, mais tu n'y entreras pas dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc Moshe Rabbeinu a reçu un ordre. L'ordre, il est dit sous une forme étrange, Hachem lui a dit « Mout, meurs ». On n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu de se suicider, mais d'entreprendre un processus dans lequel lui sera d'accord, totalement d'accord, de mourir comme Hachem le lui demande. Donc c'est une espèce de construction de la mort. Construction de sa propre mort. Nous allons parler ce soir d'un objet très particulier. On va parler du Sefer Torah. Comme chacun sait, il est composé de matériaux spécifiques pour le support, pour l'encre utilisée pour écrire le texte de la Torah. Il est bien sûr écrit en respectant des conditions particulières. Je n'entrerai pas ce soir dans plus de détails à ce sujet. Traditionnellement, le Sefer Torah contient 5 sfarim, 5 livres, tout le monde les connaît, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Dvarim. En fait, si on y regarde d'un peu plus près, il y en a 7, parce que le Sefer Bamidbar est partagé en 3. Il y a au milieu du Sefer Bamidbar 2 psukim entre des nouns à l'envers, qui sont les psukim que Moshe Rabbeinu disait lorsque le clan Israël se mettait en marche et lorsque le clan Israël campait. Cette mise en marche, cette opération de s'installer pour camper, c'était évidemment dirigé par la nuée qui accompagnait les Bnei Israël. Quand la nuée se mettait en marche, les Bnei Israël se mettaient en marche. Et quand la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Ils ne savaient jamais d'ailleurs pour combien de temps ils s'arrêtaient. Ni pour combien de temps ils allaient marcher d'ailleurs. Bien. Ceci étant, on va reparler des 5 Sfarim. En fait, on peut les partager en 2, 4 et 1. Les 4 premiers. Et le dernier, le Sefer Dvarim. Ce Sefer Dvarim a un statut un peu à part. Quand il sert de support à la Torah orale, par exemple, pour la Gemara, par exemple, il n'est pas exactement traité comme les 4 premiers. Il y a des modes de déduction qu'on emploie dans les 4 et qu'on n'emploie pas dans celui-là et vice-versa. Ce Sefer Dvarim, c'est essentiellement le testament de Moshe Rabbeinu. La Torah nous dit d'elle-même quelque chose qui est étrange, mais dont on a déjà parlé. La Torah dit, Torah tziva lanu Moshe, Morasha kilat Yaakov. La Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a ordonné. C'est très étonnant. La quand vous faites, par exemple, la bracha sur la katanerot ou sur le lulav, que vous dites « Asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu », vous ne pensez pas que c'est Moshe qui a donné l'ordre, Il est bien clair que c'est Hachem qui a donné l'ordre. Donc le problème, c'est pourquoi la Torah dit-elle sur elle-même « Torah tzivalanu Moshe ». C'était Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah. Qui nous a ordonné la Torah. Dans la halakha, dans la Gemara, et le Rambam est possède cette halakha, c'est que dès qu'un enfant sait parler, c'est ce verset-là qu'on doit lui enseigner. Torah tzivalanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. La Gemara est extrêmement sévère sur le fait de ne pas enseigner ça. La Gemara dit que on fait un tort énorme à l'enfant. On y reviendra. À la fin de sa vie, Moshe Rabbeinu a écrit un Sefer Torah. Et il a voulu le confier au Leviim, à la tribu de Lévi. Il y a eu une levée de boucliers des autres tribus qui ont dit qu'il n'en était pas question et que chacune des tribus voulait avoir un Sefer Torah. Et du coup, Moshe Rabbeinu a dû en écrire 13, un Sefer pour chaque tribu et un Sefer qui a été placé dans le Aaron HaKodesh, dans le Aaron, comme référence. C'est ce Sefer-là qui sera la référence. C'est d'après ce Sefer qu'on écrira les Sfarim ultérieurement. Il y a encore un point, le roi doit écrire, en plus du Sefer qu'il écrit à titre personnel, comme roi, il doit écrire un second Sefer qu'il doit avoir en permanence auprès de lui. Bon, ce sont toutes des choses que probablement vous savez, je les ai rappelées seulement ici pour mémoire. Chaque Sefer Torah, pour mériter son nom, pour être kasher, c'est-à-dire pour pouvoir jouer son rôle de Sefer Torah, doit être complet, au sens où s'il manque une lettre, le Sefer est pas soul, comme on dit, on peut le réparer éventuellement, mais cette absence d'une seule lettre est suffisante pour invalider complètement ce Sefer. Ça va être important. La Torah a donné une mitzvah positive à chacun d'écrire un Sefer Torah et au roi d'en écrire un de plus, comme on a dit. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'acquittent de cette obligation, pour ce qui me le permettent, en achetant des sfarim. On achète des livres d'études qui permet de remplacer en quelque sorte l'écriture, le fait d'écrire un Sefer Torah, ou de faire écrire un Sefer Torah. Alors comme toujours, la question de la Gemara sera de savoir quelle est la source de cette mitzvah? La Torah nous dit, tu dois écrire un Sefer Torah. La Gemara demande, où est-ce que c'est écrit? Alors, dans la Gemara, on verra, en devant parler, la Gemara dit, c'est un verset. Le verset dit, Kitvu lachem et ashira hazot. Écrivez pour vous cette shira, ce chant, ce cantique. A priori, quand on lit le texte, la shira dont on parle ici, c'est la shira de Haazinu. Il y a plusieurs textes dans la Torah qui sont appelés shira, qui sont appelés chants, cantiques. Celui qui est le plus connu, que tout le monde connaît, c'est le cantique qu'on appelle celui de la mer, du passage de la mer. Quand les Israël sont sortis d'Égypte, le septième jour, ils ont passé la mer. La mer s'est fendue, ils ont passé à pied sec. Alors, on va s'arrêter d'abord une petite minute, ou un peu plus, sur cette Shira de Haazinu, et la comparer à la Shira au cantique du passage de la mer. On va la comparer en regardant la façon dont les deux sont écrites dans le Sefer Torah. La Shira, Shirat Hayam, celle du passage de la mer, elle est écrite. Je vais vous montrer ça, mais je ne sais pas si tout le monde voit, mais. Tout le monde voit que l'écriture est un peu spéciale. Je vais tout de suite expliquer comment elle est. L'écriture est un peu comme quand on construit un mur de briques. Alors, on met des briques, une rangée de briques, et au-dessus, on met la rangée suivante, mais décalée. D'accord ? Ça veut dire que la Shira d'Azinu, elle est écrite comme ça. Partie du verset, suite du verset, après un autre verset qui est comme ça. Donc, si vous voulez, toujours décalé. Un mur comme cela, comme celui-ci, est un mur qui est vraiment solide. Et curieusement, la Shira d'Azinu, elle n'est pas du tout écrite comme ça. La Shira d'Azinu, elle est écrite avec deux piles. Si c'est un mur, c'est pas stable. C'est pas comme ça qu'on construit un mur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette différence d'écriture qui est évidemment significative? Et d'abord, une première chose, c'est que la Shirat Hayam, elle date, si on peut parler, d'avant Matan Torah, d'avant le don de la Torah. Haazinu, c'est après le don de la Torah. Donc la question est de savoir pourquoi la Shira d'avant le don de la Torah est plus stable que la Shira, son écriture, que la Shira d'après Matan Torah. Comme si le fait d'avoir reçu la Torah fragilise. C'est-à-dire, il y a une ouverture grâce au don de la Torah, une ouverture sur un autre monde, mais du coup il y a une fragilisation. Auparavant c'était plus simple, si vous voulez. Plus simple, on avait un contact avec Hachem, point bas. Après c'est déjà différent. Cette Shira d'Azinu, qui est donc a priori ce dont nous parle le verset en disant, qui nous dit « Kitvou lachem ta Shira azot », alors, d'où la Gemara tire-t-elle que de la mitzvah d'écrire cette Shira-là, c'est-à-dire quelques versets finalement, on déduit qu'il faut écrire toute la Torah, tout un Sefer Torah. Alors, d'ordinaire on dit, c'est comme ça que le Rambam le ramène comme ça aussi, on n'a pas le droit d'écrire des parshiot de la Torah. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'écrire sous forme de parchemin, etc., des morceaux de la Torah. Et donc quand la Torah nous dit tu dois écrire cette paracha, oui, je dois l'écrire, mais je ne peux pas faire autrement pour l'écrire que d'écrire tout le Sefer Torah. En quelque sorte, On écrit tout un Sefer Torah parce qu'on doit écrire une paracha. Pas très économique comme système.
Il était fini.
Voilà. Alors la Gemara, elle demande, enfin, tous les commentateurs demandent en vérité, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On sait que la Torah prescrit, par exemple, d'écrire 4 parchiot qu'on met dans les tefillin. La Torah a prescrit d'écrire la parasha de la Sota. Donc, voilà. Quand personne n'a dit que parce qu'il fallait écrire les parchiot de la, de les 4 parchiot qu'on met dans les tefillin, il fallait écrire tout le Sefer Torah. Donc quand la Torah prescrit une paracha bien précise à écrire, on n'a pas d'obligation de tout écrire. Dans les mezuzot, on écrit aussi une paracha. Pourquoi est-ce que ici, c'est différent ? Et donner d'abord la réponse de Rav Moshe Feinstein. Il dit que l'écriture de la Shira, l'obligation d'écrire cette Shira, ce cantique, est présentée en disant tu dois écrire le man tiye le ed. Il faut que cette paracha que tu dois écrire, elle doit être un témoignage. Et il dit, de façon générale, quand on lit la Shira, on ne voit pas en quoi elle pourrait être un témoignage. Donc sans la connaissance de toute la Torah, il n'y a aucun témoignage dans la Shira. Dans la Shira, on nous parle de décrets punitifs. Alors il faut savoir que ces décrets viennent du fait qu'on n'a pas suivi le chemin prescrit par Hachem, mais dans la Shira elle-même, on ne sait pas quel est ce chemin de vérité. Sans la Torah, on peut se tromper. Et on peut faire les choses les plus répréhensibles tout en pensant qu'on est un tzaddik ou une tzaddikette. Même l'idolâtrie, telle qu'elle est décrite par Rambam, commence par une erreur humaine au temps d'Enoch. Eux pensaient faire la volonté d'Hachem. C'est comme ça que le Rambam l'écrit au début à la Chot sur Avodah Zara. Dans leur grande tzidkout, si vous voulez, ils voulaient s'approcher d'Hachem, mais c'était une erreur. Ils voulaient faire plus véritablement, plus la volonté d'Hachem, en faisant des choses non prescrites. Et ça les a amenés à la plus grande faute, c'est-à-dire à l'idolâtrie. La vérité, si on y regarde, déjà Adam Arishon s'est trompé de la même manière. Marqué dans Chazal, Bikshu Cheshbonot. C'est-à-dire Adam et Chava ont voulu, en quelque sorte, jouer la partie avec un handicap. Même c'est trop facile. Voilà, c'est au golf, l'échec, on peut jouer avec un handicap. Donc ils se sont dit, plutôt que de n'avoir à résister qu'à une tentation extérieure, on va réussir à résister à une tentation qui se serait introduite à l'intérieur et qui donc fausserait complètement notre regard si on y prenait garde. Mais on commençait, ils se sont cassés la figure. La Torah, elle dit, je vous donne des mitzvot, l'otosifu. Vous n'ajoutez pas. Et curieusement, dira Moshe Feinstein, juste après. Cela aussi fou. La Torah mentionne la faute que les Bnei Israël ont faite avec Baal Peor. Faute d'Avodah Zarah, Gilui Arayot en même temps. Mais pourquoi est-ce que la Torah met cette faute immédiatement après l'Otosifu? Pour dire que si on veut ajouter de soi-même, sans l'étude de la Torah, alors on arrive à quelque chose comme la Avodah Zarah de Baal Peor. La Avodah de Baal Peor, ça consiste à faire un geste de mépris. Je ne vais pas entrer maintenant dans les détails. Un geste de mépris à l'égard de l'idole en question. Et donc, ils se sont dit que c'est comme ça qu'il faut servir cette idole. Ils ont sanctifié ce geste de mépris. Ils ont fait la plus grande idolâtrie. Sans la Torah, le fait de connaître la Shira, ça ne sert à rien. Parce qu'on est sanctionné sur le fait de mal faire, même quand on fait ce mal en pensant qu'on est en train de faire du bien. Et donc il n'y a aucun témoignage de quoi que ce soit dans la Shira. C'est pourquoi on comprend, on déduit, dira M. Weinstein, qu'on doit écrire toute la Torah. On doit connaître toute la Torah, c'est marqué « Sima Befiem », tu la mettras dans leur bouche. Alors, quand ils sauront, grâce à la Shira, que la sanction vient de ce qu'ils ne suivent pas la voie d'Hachem, ils sauront comment faire tshuva, comment choisir la voie d'Hachem, c'est-à-dire la voie de la Torah. Ça, c'est ce que dit Moshe Feinstein. Le Hamek Davar, le Netziv de Volozhin, sur ce même verset, il dit la chose suivante. Il dit, dans toute la Torah, Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël ce qu'Hachem lui a dit, ou plus exactement, Hachem parle par sa bouche. Et ensuite seulement il écrit. Donc, l'écriture vient après l'oral. Après, les Bnei Israël ont reçu la parole divine, si vous voulez, par la bouche de Moshe, et ensuite seulement Moshe Rabbeinu écrit. Et c'est pour ça que, enfin, Moshe Rabbeinu l'a fait, c'était comme ça qu'il devait faire, effectivement. Nous aussi, aujourd'hui, on enseigne la Torah publiquement, mais comment ça correspond avec ce qui est dédié à Moshe? Dans la Gemara dans Brachot, on dit Kishem Hashem Ekra Havu Godel Le'elokim. C'est-à-dire, d'abord, je vais lire, et ensuite on va donc dire la grandeur d'Hachem. De ce verset, on apprend qu'il faut faire une bracha sur l'étude de la Torah. Une bracha qu'on fait le matin sur l'étude de la Torah. Mais jusqu'alors, mon cher Rabbeinu ne faisait pas de bracha. Parce que la Shrina parlait par la bouche de Moshe. C'était un miracle. Un miracle n'a pas besoin de bracha, pas besoin de bénédiction. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi c'est marqué « Kitvu » C'est un pluriel. Ramban, Nachmanide dit que ça porte sur Moshe et Yoshua. Et bien sûr, c'est surprenant, parce qu'on aurait dû dire « Lamdou El Bnei Israël ». L'activa à l'écriture, c'est seulement Moshe. Plus bas, c'est marqué Vaïrtov Moshe. Moshe Rabbeinu a écrit seul. Donc il faut entendre Kitvu comme la source de la mitzvah pour chaque juif d'écrire un Sefer Torah. Mais c'est marqué Ashira Azot. C'est cette Shira qu'il faut écrire. Donc il y a ici une, dit le Hamek Davar, une double intention. Moshe doit écrire la Shira d'Azinu. Et chacun d'entre nous doit écrire la Torah, toute la Torah. Puisqu'on ne peut pas écrire les parashiot séparément. C'est-à-dire l'ordre d'écrire cette paracha-là seulement, ça ne concerne que Moshe Rabbeinu. Le Rambam est difficile à comprendre en réalité, puisqu'on peut écrire, comme on sait, sur les tefillin, mezuzot. L'explication est aussi difficile parce que, en réalité, le fait de savoir si on a le droit d'écrire des parashiot toutes seules ou si on est obligé de les inclure dans un Sefer Torah, c'est une discussion dans la Gemara, dans Gittin. Et donc, c'est jamais ce que dit Rambam ici, c'est seulement une opinion. Et puis après, la grande difficulté d'après lui, c'est la fameuse Gemara d'Andarim qui dit que la Torah n'a été donnée qu'à Moshe Rabbeinu et à ses descendants. Parce que c'est marqué Ktav Lecha. Le Ktav est à toi, pour toi. L'étude de la Torah n'a été donnée qu'à Moshe Rabbeinu et à ses descendants. Au Bnei Israël, il n'a été donné que les mitzvot. Ah, c'est marqué, dit la Gemara, c'est marqué, Kitvu Lachem, au pluriel. La Gemara répond, c'est la Shira elle-même, Shira Azot. On est obligé de dire, dit le Nesiv, que le Rambam avait une autre version. Au lieu d'écrire la Shira Levad, il avait Ktiva Levad. Le Shira, le Val, la Shira, uniquement la Shira, il avait l'écriture seule. Dans la Gemara de Darim, on apprend que la mitzvah de « Et maintenant, Kitvu Lachem », c'est toute la Torah, et donc « Ashira Azot » doit être expliquée de deux manières, encore une fois. Pour Moshe Rabbeinu, seulement à Ashira Azinu, et pour tout Israël, toute la Torah. Mais la preuve de la Gemara, il s'agit vraiment de toute la Torah, elle n'est pas très claire du tout. Et le Netziv dit, moi il me semble qu'il s'agit, ces versets, ils parlent d'une prophétie qui concerne l'époque des juges. On ne va pas entrer là-dedans. Donc, on ne sait pas exactement comment se débrouiller dans cette question. C'est-à-dire, on a une mitzvah, on a une source, mais la source, c'est pas vraiment une source. Bien. Moshe Rabbeinu avait reçu l'ordre de mourir. Et la Torah dit dans le cinquième passouk du chapitre 34, Vayamot Sham Moshe Eved Hashem Be'eretz Moab Al Pi Hashem. Moshe Rabbeinu est mort là-bas. Moshe Rabbeinu Eved Hashem, serviteur d'Hashem, dans le pays de Moab. En vérité, de la bouche d'Hashem. C'est un baiser divin qui le fait mourir. Donc, Moshe Rabbeinu est mort. Ensuite, le passouk dit, ça, c'est ce que j'ai annoncé, c'est le premier des huit derniers versets. Deuxième verset, Vaikbor oto, Vaïkbor au singulier, Oto, Begay, Bnei Israël, Begay, pardon, Be'eretz Moab, Moul, Beit Peor, Velo Yada, Ishet Kvurato, Adayom Azé. Il l'a enterré, qui est le il, dans le pays de Moab, en face de Baal Peor, et personne ne sait où il est enterré. Jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, donc, jusqu'à présent, on a parlé de la mort de Moshe et de son enterrement. Ensuite, on nous dit que Moshe Rabbeinu avait 120 ans quand il meurt. Et alors, le Passouk nous dit une drôle de chose ici. Je prends la traduction ici de Stone. Son œil n'avait pas faibli et sa vigueur ne l'avait pas quitté. Et Chazal dit, tranquillement, même après la mort. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu avait, après la mort, tous les signes de la vie. Donc, on ne sait pas, il est mort ou il n'est pas mort? Il est mort, il est encore vivant. C'est marqué qu'il est enterré. C'est marqué, quand les Romains, ils voulaient savoir où il était enterré. Alors, quand ils étaient en bas, on disait, il est en haut, ils le voyaient en haut, ils montaient en haut, et moi, je le voyais en bas. Donc, il est enterré ou il n'est pas enterré? Donc, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est enterré. Vaïvku, Bnei Israël et Moshe, Be'avot Moab, Shloshim Yom, Vaïtmu Yeme, Bechi, Evel Moshe. Donc les Bnei Israël ont pleuré Moshe Rabbeinu pendant 30 jours. Alors tout le monde s'est remarqué qu'à la mort d'Aaron, c'est marqué Vaïvku, ils ont pleuré Kol Bnei Israël, tous les Juifs. Alors que la mort de Moshe, c'est marqué, Bnei Israël, tout le monde ne pleurait pas. Alors on explique que Aaron, il a fait beaucoup de travail de Shalom Bayit, de la paix des ménages, etc. Alors tout le monde pleurait. Moshe Rabbeinu ne s'est pas occupé de ça, c'était la halakha. Donc il n'y a que certains qui pleuraient, tout le monde ne pleurait pas. Donc, on a parler de la mort de Moshe, son enterrement, de ce qu'il était, il avait 120 ans, il était vivant, pas vivant, enterré, pas enterré. Que les Bnei Israël, donc, l'ont pleuré. Et ensuite, alors, il y a un successeur, Yoshua bin Nun. Ensuite, son successeur, Yoshua bin Nun, était empli de l'esprit de sagesse, car Moshe avait imposé ses mains sur lui, et les enfants d'Israël lui obéirent et agirent comme Hachem l'avait ordonné à Moshe. Voilà, comme la succession est réglée, on a énoncé la succession. Et ensuite, alors, maintenant on va dire l'éloge de Moshe. Velo kam navi od bi Israël ke Moshe, asher yedao Hachem panim el panim. Plus jamais ne s'éleva en Israël, et nos rabbins vont dire ne s'élèvera en Israël, un prophète comme Moshe, qu'Hachem a connu face à face. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est un être unique. En tout cas pour les Bnei Israël. Mais curieusement, comme c'est marqué pour les Bnei Israël, les Chachamim qui n'en laissent pas passer une, ils disent, oui, pour les Bnei Israël, il n'y en a pas. Mais chez les Goïms, il y en a. Et qui c'est? Bilham. Bon, je ne vous cacherai pas. Même si vous ne savez pas vraiment qui est Bilham, mais ce n'était pas la crème. C'était difficile de comprendre en quoi on peut comparer Bilham et Moshe. Donc bien, on est obligé de dire qu'il y a une comparaison possible parce que la Gemara, elle dit qu'à la fin des temps, les goïms viendront chez Hachem, ils diront, mais si tu nous avais envoyé à nous un bonhomme de la stature de Moshe, nous aussi on aurait fait les mitzvot, on aurait... Et Hachem leur dit, je vous en ai envoyé un, c'était Bilham. Mais Bilham tel qu'on le connaît, d'accord, très près de son ânesse, etc. On voit pas très bien comment il aurait pu Il faut le dire comme ça. Il avait quelque chose de tout à fait particulier, à savoir, il savait quand Hachem se mettait en colère. Il avait donc une connaissance de quelque chose de très intime du fonctionnement du monde. Et il l'a utilisé pour le mal et pas pour le bien. Alors, et on continue ce que Hachem a connu, donc, Moshe face à face. Et on ajoute, le chola otot ve'amoftim, asher shlacho Hachem la'asot be'eretz Mitzrayim le paro le chola badav, ou le chola arzo. Tous les signes, les prodiges qu'Hachem avait envoyé Moshe accomplir dans le pays d'Égypte contre Paro, contre tous ses courtisans et contre tout son pays. Donc la singularité de Moshe. Hachem l'a envoyé pour faire quelque chose d'assez extraordinaire. Et aussi, ou le chol hayad hachazaka, ou le chol amora hagadol, asher asa Moshe l'aîné kol Israël. Et par toute la main puissante et toute la grande terreur que Moshe a accomplie aux yeux de tout Israël. Voilà. Ce sont les fameux 8 versets qui posent un énorme problème. Le premier de ces 8 versets, c'est Vayamot Sham Moshe Evel Hashem Be'eretz Moav Alpi Hashem. Toute la Torah a été écrite par Moshe Rabbeinu. Alors, la Gemara demande, est-ce que Moshe peut écrire ça? Est-ce que Moshe peut écrire Vayamot Moshe? Que Moshe est mort? Comment il peut écrire ça? Comment Moshe peut-il écrire qu'il est mort? On va voir un peu longuement la façon dont le Gaon de Vilna regarde la chose. Il ramène la Gemara dans Baba Batra, où on dit que il y a un enseignement, et on dit que cet enseignement, il va selon celui qui pense que ces 8 versets-là ont été écrits par Yoshua. C'est Yoshua après la mort de Moshe, c'est Yoshua qui a écrit. Seulement, Efshar Moshe Chai Vekatav Hayamot Sham Moshe. Moshe peut-il être vivant et écrire qu'il est mort? Donc, on répond, la Gemara répond, c'est la Gemara dans Mnachot. Aussi, Adkan Katav Moshe, jusque-là, jusqu'au premier de ces 8 versets, c'est Moshe qui a écrit. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, d'autres disent Rav Nechemia, il dit c'est Yoshua qui a écrit. Et donc, on a un texte dans Baba Batra, dont la Gemara dit, ça va d'après Rabbi Yehuda, qui pense que c'est Yoshua qui a écrit. Amarlo, Rabbi Shimon, alors Rabbi Shimon a objecté à Rabbi Yehuda, il lui a dit, Efshar, Sefer Torah, Chaser, Otachat. Est-ce que c'est possible? C'est un Sefer Torah, il lui manque une seule lettre. Or, c'est marqué, la Koach et Sefer HaTorah Azé. Comment on peut appeler Sefer HaTorah s'il n'a pas été écrit entièrement par Moshe? Donc, il faut dire, Adkan, dit Rabbi Shimon, Adkan, Akadosh Baruch Hu Omer, ou Moshe Omer Vekotev, Mikan Ve'elach, Akadosh Baruch Hu Omer, ou Moshe Kotev Bedema. Jusque-là, ça se passait comme ça. Hachem parlait, et Moshe répétait ce qu'Hachem avait dit, et il écrivait. À partir de ces versets-là, Akadosh Baruch Hu parle. Et Moshe, il écrit Bedema. Les dmaot, ce sont des larmes. Donc il semblerait ici, d'après cette lecture, première lecture, que Moshe écrit en pleurant. Mais c'est pas très intéressant. Et en plus, on peut se demander pourquoi Moshe Rabbeinu pleure ici. Ça fait longtemps, d'abord tout le monde meurt. Il a vécu 120 ans. Et il sait depuis longtemps qu'il va mourir. Shem lui a dit, comme je vous l'ai lu, Mout. Il sait. Pourquoi tout à coup il se met à pleurer maintenant? Alors, on va revenir là-dessus. C'est, bon, il y aura des répétitions parce que je vous ai apporté plusieurs opinions. Le Gaon dit... La question est assez claire. Comment est-ce que Rabbi Shimon répond à la question de Rabbi Yehuda? Il lui a dit, est-ce qu'on peut imaginer que Moshe... vivant, écrit « Vayamot Sham Moshe », a priori, c'est un mensonge. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Shimon? Que Moshe écrit en pleurant. En quoi ça? Je te dis, c'est, tu ne peux pas dire que Moshe a écrit un mensonge. Il répond « Oui, mais il pleurait ». C'est quoi ça? Rashi, il a essayé d'arranger un peu la chose. Comme on a vu. Rashi, il a dit, vous vous souvenez, on l'a déjà énoncé, toute la Torah, Hachem disait chaque mot à Moshe. Moshe répétait, pour s'assurer qu'il n'était pas en train de se tromper, et il écrivait. Et ensuite, ça c'était vrai jusqu'à Vayamot Moshe. Et à partir de là, Moshe Rabbeinu ne disait pas Vayamot Moshe, parce qu'il ne peut pas dire un mensonge. Puisqu'il était encore vivant. Donc il écrivait sans parler. Mais c'est assez difficile. Ok, il n'a pas dit un mensonge, mais il a écrit un mensonge. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est marqué, « Lokam Israël Navi que Moshe » Est-ce qu'on peut écrire, on peut écrire des mensonges, même si effectivement il ne l'a pas dit. Et d'un autre côté, comment est-ce que Rabbi Yehuda peut dire que à partir de là, c'est Yoshua qui écrit? Il doit tenir compte de ce que lui a dit Rabbi Shimon. Comment on peut imaginer que la Torah... qui est la Torah de Moshe, ça écrit Zichut Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous, dit le Navi, de la Torah de Moshe, mon serviteur. C'est la Torah de Moshe. Comment on peut dire que c'est Yoshua qui a écrit une partie? Donc c'est, dit le Gaon de Vilna, les deux opinions sont incompréhensibles. Réponse du Gaon. Shneim divrei Elokim Chaim. En fait, les deux sont les paroles du Dieu vivant, comme on dit. Chacun d'entre eux a dit quelque chose, et en fait, ils ne sont pas réellement en opposition. Il dit, d'abord, je ne comprends pas la Gemara. Pourquoi la Gemara, elle pose cette question sur les 8 derniers versets? Comment ils ont pu être écrits? Alors que Moshe... encore vivant. Toute la Torah d'Ilgaon était écrite 2000 ans avant la création du monde. Hachem a écrit la Torah 2000 ans avant la création du monde, et ensuite il a créé le monde en regardant la Torah. Mais à ce moment-là, il n'y avait ni Shamaïm, ni Aretz, ni cieux, ni terre, ni tout ce qu'ils contiennent. La génération du déluge, la génération de la tour de Babel, la sortie d'Égypte, etc. Comment est-ce qu'on a pu écrire ça dans la Torah alors que ça n'existait pas? Comment Hachem a pu écrire la Torah alors que c'était un tissu de mensonge au moment où il l'écrit? Alors ici, il dit quelque chose. C'est pour ça qu'on parle de ça. Le gars, on dit comme ça. On sait aussi du Ramban Nachmanides que Kol HaTorah Kula, toute la Torah, ce sont en fait des noms d'Hachem. Des noms divins. C'est-à-dire, en fait, la Torah, initialement, elle était faite de lettres avant la création, uniquement de lettres, des lettres qu'on pouvait composer, qu'on pouvait permuter, il y avait des règles. Et la Torah n'était pas lisible comme elle est lisible aujourd'hui. On n'y lisait que des noms divins. Les noms divins, c'est les différentes façons dont Hachem gouverne le monde, par exemple. Mais à partir du moment où HaKadosh Baruch Hu, en regardant cette Torah, il a créé le monde, et il a donné ensuite la Torah au Bnei Israël, il leur a donné des mitzvot qui doivent être réalisées dans l'espace-temps, dans certains lieux, dans certains laps de temps. Alors, la Torah a du coup été écrite. On a réorganisé, si vous voulez, les lettres. De telle sorte que ces lettres nous disent comment faire les mitzvot. Et donc, la Torah a été partagée en mots, en lettres, pour dévoiler, pour expliquer, pour que la Torah soit quelque chose qui nous parle. Et maintenant, la lecture de la Torah, comme combinaison de lettres et de mots, dévoile les secrets de la Torah, ça a été donné à ceux, on appelle ça les Yodei Chen, les Kabbalistes, si vous voulez. Mais ce sont des choses qu'on n'enseigne pas directement, on enseigne ça à Chacham Mevin Midato, c'est-à-dire, on enseigne à des gens qui connaissent par ailleurs quasiment la Torah, et qui sont capables, alors qu'on ne leur donne que des têtes de chapitre, sont capables de comprendre et de développer à leur manière, avec leur richesse, ce que veulent dire ces têtes de chapitre. Ce qu'elles peuvent dire, ça veut dire, ça dépend évidemment aussi de l'imagination. C'est ça que Chazal disent quand ils disent que Betzalel, le constructeur, l'organisateur de la construction du Mishkan, du tabernacle, Chazal disent Yodea haya Betzalel betzaref otiyot shenivrau ba'em shamayim va'aretz. Betzalel savait les combinaisons de lettres avec lesquels les cieux et la terre ont été créés. C'est la Torah, en fait. Il la connaissait dans son état premier, où elle n'était que regroupement de lettres composant les noms divins. Et c'est d'après cela que il a construit le Mishkan. Alors, dit le Gaon, on peut comprendre maintenant la Gemara en question. Rabbi Shimon voulait répondre que, de toute manière, Sefer Torah, auquel il ne manque qu'une seule lettre, c'est pas un Sefer Torah. D'un autre côté, on ne peut pas faire dire à Moshe Rabbeinu, faire écrire à Moshe Rabbeinu un shéker, un mensonge. Donc, Rabbi Shimon dit, Adkan HaKadosh Baruch Hu Omer ou Moshe Omer Vekotev. Jusque-là, Hachem parle et Moshe répète pour ne pas se tromper, et ensuite il écrit. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a dit chaque mot comme ce mot est écrit, comme nous l'écrivons aujourd'hui quand on écrit un Sefer Torah, pour dévoiler comment on fait les mitzvot, dévoiler qu'il y a des mitzvot et comment on les fait. Mais à partir de ce moment-là, il ne pouvait pas écrire clairement, il ne pouvait pas écrire en clair, « Vayamot Moshe ». Parce que c'était un shaker. Et donc, on ne pouvait pas non plus laisser terminer le Sefer Torah par Yoshua. Parce qu'un Sefer Torah serait un Sefer Torah, écrit par Yoshua partiellement, serait comme un Sefer Torah auquel il manque une lettre. Yoshua ne peut pas écrire un Sefer Torah. C'est pour ça qu'il a dit que Moshe Rabbeinu était Kotev Bedema. Mais, dit le Gaon, Dema, c'est vrai que c'est une racine qui peut faire référence aux larmes, mais ça correspond, il faut l'entendre, dans le sens où la Torah le dit, Melacha, Melatra Vedimacha, c'est-à-dire, Meduma veirbuv otiot. Il écrivait, mais il écrivait dans la version initiale. Moshe Rabbeinu, donc, il n'écrit pas un shéker, c'est lui qui écrit, et c'est bien la Torah qui est écrite, mais dans sa version initiale. Dans sa version, si vous voulez, suite de lettres, ou groupement de lettres. C'est-à-dire non divin. Donc ça ne se lisait pas, quand il a écrit, ça ne se lisait pas Vayamot Sham Moshe. D'autres mots qui correspondent au Sodot, au secret de la Torah. Après sa mort, Yoshua a traduit dans le langage actuel, comme on lui a permis de dévoiler cette Torah. Ça veut dire qu'en réalité, dit le Gaon, les deux opinions ne se contredisent pas. En vérité, Moshe a écrit, et donc le Sefer ne manque pas une seule lettre. Il ne lui manque pas une seule lettre. Mais ces huit versets-là, vous ne pouvez pas les écrire en clair. Donc il les a écrits en combinaison de lettres, c'est ça qu'on appelle Dema, c'est-à-dire mélange. Et ensuite, Yoshua les a écrits de façon claire, comme le dit Rabbi Yehuda. Tous les deux sont d'accord que le Sefer Torah a été écrit par les deux. Par Moshe dans la version Nistar, secrète, si vous voulez, et par Yoshua dans la version dévoilée, comme elle l'est pour nous. Voilà ce que la réponse du l'explication du Gaon de Vilna. Là, on a un peu expliqué cette histoire d'autres endroits. Il a expliqué que le Ramban a dit que Kol Psuka de l'Opaske Moshe Anan l'Opaskinan. C'est-à-dire, nous, nous ne disons pas un verset qui n'a pas été écrit par Moshe. Il explique que la raison, c'est que les lettres et les mots sont en fait deux niveaux différents. Dans le bas niveau, on a affaire à des mots. Parle des Urim v'Tumim, les Urim shemeirim et divrayem, qui éclairent leurs paroles. Les Tumim shemashlimim et divrayem, qui complètent, c'est-à-dire le secret. Donc, en haut, dans le monde d'en haut, les mots ne sont pas écrits sous forme de mots. Quand ça descend, quand Hachem descend la Torah, en quelque sorte, il l'utilise pour créer le monde. Ensuite, il la donne au Bnei Israël. Alors, on complète. Et ces huit versets-là, ils n'étaient pas encore arrivés à leur état complet. Et donc, ils sont restés plus longtemps dans l'état où ils sont le Mala, où ils sont en haut, dans le monde d'en haut. Ça, c'est l'enseignement du Gaon à ce sujet-là. Je vais encore... On a commencé tôt. Donner un enseignement de Rabbi Yocheber et Rabbi Yosef Dov à Lévi, Soloveitchik, qui était le Rav Yocheber à Boston, sur ce sujet-là. C'est toujours la même Gemara, je ne vous répète pas la Gemara. Quand on dit que mon cher Rabbeinu répétait et ensuite il écrivait, a priori ça a l'air d'être du coup, et d'être la halakha, c'est comme ça qu'on doit faire. Il semble, dit-il, que même d'après cette version-là, ce n'est pas le premier sens de ce texte. D'après le pshat, il semble que ce texte-là veuille dire « Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu une nevoua. » Une prophétie. Je rappelle que la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. C'est une des raisons pour lesquelles on dit qu'il n'y aura jamais de prophète comme Moshe Rabbeinu, parce qu'on n'aura pas une deuxième Torah. Bon. La prophétie des prophètes, elle est écrite dans les prophètes, la prophétie de Moshe Rabbeinu en tant que prophète, c'est une prophétie d'un genre particulier, incomparable, il n'y a pas d'autres prophéties de ce type-là, c'est la Torah. Le texte de la Torah, c'est la prophétie de Moshe. Donc, Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu une prophétie, et Moshe Rabbeinu, immédiatement, il disait ce qu'Hachem lui a donné comme prophétie, il le redonnait au Bnei Israël. Et ensuite, effectivement, il l'a écrite dans un Sefer. En fait, tant que Moshe ne l'avait pas dit, ne l'avait pas dite, ce n'était pas une prophétie. C'est le fait de le dire. Il y a un pasouk qui dit « Boré niv sfatayn ». La nevoie, c'est quelque chose qui doit être parlé. Ça doit être dit. Donc, tant que Moshe ne l'avait pas dit, si Moshe écrit seulement, c'est pas une nevoie. Ça s'appelle pas une prophétie. Ça n'a pas la kdusha d'une nevoie. Et donc, ça ne peut pas être non plus... C'est un problème, ça ne peut pas être non plus un Sefer Torah. S'il écrit sans dire, sans parler. Avant donc que les... Avant que ces paroles-là deviennent prophéties, il faut que Moshe les parle. Et donc Moshe Rabbeinu n'avait pas le droit non plus d'écrire la Torah, qui est la prophétie de Moshe, tant qu'on n'avait pas affaire à une vraie prophétie. Donc il fallait absolument qu'il parle. Son travail, c'était donc de transformer la prophétie en Divrei Torah. Le Netziv, il cite ici le Hamek Davar, sur le pasuk Kitfou Lachem Tashira Azot, écrivez cette Shira et enseignez-la. Il dit que Avshebe Kola Torah Kula, bien que dans toute la Torah, Moshe Rabbeinu, avant d'écrire, il parlait au Bnei Israël, et seulement après, donc, il l'écrivait dans le Sefer, dans Ahazinu, c'est le contraire. Dans Ahazinu, il a écrit la Torah, c'est marqué maintenant écrivez, et après seulement, il l'a dit au Bnei Israël. Les Sofrim aujourd'hui, enfin les gens qui écrivent cette Torah, ils ont l'habitude effectivement de prononcer les versets avant de les écrire. C'est une Khumra, c'est pas Minadin. Parce que c'est une façon, on peut lire le texte de la Gemara comme ça, mais on n'est pas obligé. En vérité, Pshat c'est autre chose, le pshat du texte. Et la Gemara dit, ok, ces huit versets, ils sont autrement que les autres. Alors, le Rambam, dans les lois de Tfila, il écrit, Shmona, ces huit versets, à la fin de la Torah, bien que ce soit Torah, c'est sûr que ces versets-là, sont une partie de la Torah. Ou Moshe mipi Agvura, et Moshe Rabbeinu l'a dit sous la dictée d'Hachem. Mais puisqu'il laisse entendre ces versets, que Moshe, enfin, il parle d'un moment où Moshe était déjà mort, Yamot Moshe, puis ensuite on parle, ça veut dire Nishtanu, donc ils sont différents des autres. Pour cette raison-là, la halakha est que, même publiquement, un individu, ces versets-là, on peut les lire en public. Pourquoi ? Parce que il y a une possibilité de se tromper. Parce qu'on, comme on pourrait penser qu'ils n'ont pas été écrits avec Moshe, ils n'ont pas été écrits par Moshe, pardon, pour cette raison, la halakha les concernant est différente. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que, effectivement, le Rambam dit que parce qu'on peut se tromper, ils ont une halakha, c'est une halakha différente. Ce que le Rambam veut dire, dit Rabbi Sheber, c'est que quand Moshe Rabbeinu a écrit ces versets, ça n'était pas encore vrai, parce qu'il n'était pas mort. Et donc, ces versets-là n'avaient pas de sens correspondait à rien dans la réalité. Donc ces versets, quand il les a écrits, il n'avait pas de Gdoucha. Il n'avait pas la Gdoucha de Sefer Torah. Pas la sainteté d'un Sefer Torah. Bien qu'ils aient été écrits par Moshe. Puisque quand il les a écrits, ce n'était pas vrai. Ce qu'il écrivait n'était pas vrai. Donc ça ne peut pas devenir Torah. Pour cette raison, parce qu'ils n'ont pas été rendus kadosh par l'écriture de Moshe, pour cette raison, le Rambam pense que la loi concernant leur lecture, vous savez, d'abord chez Bekdusha, les choses qui ont de la Kdusha, on doit être à 10 pour les dire, comme le Kaddish ou la Kdusha. Et le Sefer Torah, la lecture publique du Sefer Torah, il faut 10 personnes. Mais ça, c'est quand les choses ont été écrites par Moshe Rabbeinu, et au moment où il les a écrites, il leur a donné la Kdusha. D'après cela, dit-il, je vais expliquer la fin des paroles de Rabbi Shimon dont on a parlé au tout début. Quand on dit Moshe Katav Bedema, vous avez entendu le Gaon dit son pshat, lui il propose autre chose. Il demande, ce que je vous ai déjà dit, il demande, mais pourquoi il pleure maintenant? Finalement, comme il dit, sauf Koladam Lamout, c'est la fin de tout. Chacun d'entre nous, on finira par mourir un jour. Kvaryadazman Rav, Mikodem Shesofo Lamout Bechutz Laaretz. Ça fait longtemps que Moshe Rabbeinu sait qu'il va mourir en dehors d'Eretz Israël et qu'il n'entrera pas en Eretz Israël. Alors pourquoi tout à coup il se met à pleurer maintenant, au moment où il écrit ces 8 versets? Alors il cite le Gaon, que le Gaon a dit que c'était mélangé, c'est-à-dire la Shon Meduma, c'était pas dans l'ordre, c'était pas la formulation standard. Mais il dit, mais ça, même le Gaon, il dit, il faut comprendre ce qu'il dit le Gaon. Il me semble, dit-il, que la raison pour laquelle il a pleuré, il a compris justement qu'il était en train d'écrire des versets et que ces versets, il ne pouvait pas leur donner la Kdusha parce que c'était pas la vérité. Donc, il a pleuré parce qu'il pouvait pas finir le Sefer Torah. Il pouvait pas donner finalement la dimension de Kdusha du Sefer Torah. Ces versets, bien sûr, ils sont devenus kadosh. Ça veut dire que aujourd'hui, pour nous, ces versets ont la même kedusha que tous les autres. Mais ça s'est fait tout seul, après coup, quand c'est devenu vrai. Donc quand il a écrit, c'était sous condition que ça devienne vrai. C'est à ce moment-là, ils obtiennent leur kedusha. Ah, et vous me direz, dans la Torah, il y a beaucoup de promesses et de prophéties qui sont écrites dans la Torah à un moment où elles ne se sont pas encore réalisées. C'est plein dans la Torah de nevouot et de promesses qui. Et c'est évident que quand Moshe Rabbeinu les a écrites, elles avaient la Kdusha quand il les a écrites. Ben, c'est différent, parce qu'elles ont été écrites au futur. Immédiatement, elles ont eu leur Kdusha parce qu'elles ne sont pas écrites comme ayant eu lieu. C'est écrit comme ça va se dérouler comme ça. Donc à ce moment-là, c'est vrai. Mais ici, c'est écrit comme si on était en train de raconter que Moshe Rabbeinu était mort. Donc c'est ça le. Sa proposition, quelque sorte, si on peut dire, c'est ça. C'est la raison pour laquelle il pleure. C'est vraiment des pleurs pour lui. Mais il pleure de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout dans son écriture du Sefer Torah, donner la Kdusha. Un peu comme on raconte du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna est Niftar à Sukkot. Il avait son loulav et il pleurait. Alors les gens lui ont dit, écoute, faut quand même pas exagérer. Tu as vécu une vie extraordinaire, tu as rempli ta vie au maximum. Il dit, je pleure pas à cause de ça. Je pleure parce que je quitte un monde dans lequel, pour quelques sous, on peut faire une mitzvah. Et je vais dans un monde où, pour tout l'or du monde, je ne pourrais pas faire une mitzvah. Je ne peux rien changer, je ne peux plus faire de mitzvah. Alors, j'ai encore un petit point, un dernier point, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier. C'est marqué « Vayamot Sham Moshe ». Alors, le Gaon rapporte « Yesh Omrim Lomet Moshe ». Certains disent que Moshe n'est pas mort. Pourquoi? Parce que c'est marqué « Vayamot Sham Moshe ». Et c'est aussi marqué quand Moshe Rabbeinu a reçu les Luchot, Vahi Sham im Hashem. Il était là-bas avec Hashem. Ce mot de Sham, là-bas. C'est pas où c'est, là-bas. Et la Gemara, dans Sota, elle dit, Ma le'alan omed u'meshamesh, de la même manière que au Sinaï, il était en train de servir Hashem, Afkan omed u'meshamesh. Ici aussi, au moment de sa mort, soi-disant, il était en train de servir Hachem. Et il dit, le Gaon dit, Vayamot, Vav, Yud, Mem, Tav, c'est les notaricones, c'est les initiales, Vehu, Yoshev, Meshamesh, Tamid. C'est le Gaon de Vilna. D'accord, il est là. Et il sert en permanence Hachem. Pourquoi est-ce que il y a cette idée de Yoshev? Pourquoi c'est marqué Yoshev? Pourquoi est marqué qu'il est assis? Alors que là-bas, au Sinaï, il était debout. Parce que la Gemara, elle dit dans Maseret Megillah, elle dit que pour les choses douces, faciles, en quelque sorte, on peut les apprendre debout. Chose plus difficile, il faut s'asseoir. Donc ici, il était Be Yeshiva, et là-bas, Be Amida. Quand il reçoit la Torah, il est Be Amida. Il est debout. Ça veut dire, c'est chose facile. Quand il doit écrire qu'il est mort, alors il s'assied, Yoshev. Ça veut dire que c'est plus difficile, évidemment. Alors, le Gaon donne la source. Le Gaon dit, vous n'arrivez pas à me relire, il dit que ceux qui disent qu'il n'est pas mort, sur quoi ils se basent pour dire une chose pareille? Il y a un Midrash qui dit la chose suivante. Il y a à peu près 52 occurrences des mots Ve'amelech David, le roi David. Mais quand David était à l'article de la mort, il est écrit Va'ikrivu Yemei David Lamut. C'est pas marqué Yemei Melech David, Amelech David Lamut. Parce que, dit le Gaon, on sait que En Shilton, le Yom Amita, c'est un pasouk dans Kohelet, le jour de la mort, il n'y a plus de pouvoir qui tienne. Donc il n'est plus Melech le jour de la mort. Il est mort, c'est David qui est mort, ce n'est pas le roi David qui est mort. On n'est pas roi quand on meurt. Le roi, ça veut dire qu'il a un pouvoir, et quand il meurt, il n'a plus de pouvoir. Donc à ce moment-là, il n'a plus de pouvoir. Donc comme c'est marqué Vayamot, En vérité, on aurait dû dire Vayamot Moshe. Et c'est marqué Vayamot Sham Moshe Evel Hashem. À ce moment-là, il est Evel Hashem. C'est le titre le plus élevé qui ait jamais été donné à Moshe Rabbeinu. Parce que même le Malachi, quand il dit Zichut Torat Moshe Avdi, souvenez-nous de la Torah de Moshe, mon serviteur, mais ce n'est pas marqué Eved Hashem. D'accord? Eved avec le tétragramme. Et c'est dit quand? Au moment de sa mort. Donc il était le plus vivant possible au moment de sa mort. C'est pour ça, dit le Gaon, que certains disent que Moshe Rabbeinu n'est pas mort.